Les cours du Collège de France, Thierry Coquan, chaire informatique et sciences numériques.
Dans cette leçon, je vais d'abord montrer comment utiliser le langage de la théorie des types dépendants pour formuler la notion de faisceau. Et ceci va donner des exemples importants de ce qu'on appelle donc modalité exacte à gauche, qui permettent de construire de modèles internes de la théorie des types avec univalence. Donc on part d'un modèle avec univalence, et à l'intérieur, donc, on va distinguer des types particuliers qui sont modaux, et si la modalité vérifie certaines propriétés, on obtiendra de cette manière un nouveau modèle de la théorie des types avec univalence. Et comme on va le voir, donc, c'est très lié à la technique de forcing en théorie des ensembles. Et comme technique de forcing, donc ça va pouvoir, on peut utiliser cette technique pour montrer que certains principes sont indépendants. Et ensuite, donc comme on a vu qu'on peut associer les structures de modèles de Quillen à des modèles de l'univalence, ceci va permettre aussi de construire de nouvelles structures de modèles de Quillen. Et donc en particulier, donc je vais définir une modalité exacte à gauche qui permet de construire un modèle de l'homotopie qui a de bonnes propriétés dans une métathéorie constructive. Donc je rappelle donc la situation pour la théorie des types. Donc il y avait la théorie des types simple de Church, HOL, qui peut s'étendre donc en théorie des types dépendants, type dépendant avec, avec univers. Donc c'est ça la ce qu'on n'a pas dans la théorie HOL, où on peut l'étendre avec théorie des types dépendants avec univers et univalence. Et donc, ces trois systèmes formels, en fait, ont donné naissance à des systèmes de preuves sur machine. Donc, HOL, il y a plusieurs systèmes de preuves qui sont construits sur HOL, donc le système qui s'appelle HOL, et une version de Isabelle, donc qui utilise la logique d'ordre supérieur. Alors le système, l'extension avec univers, donc il y a différents systèmes, donc un système très ancien, donc c'est New Pearl, et plus récemment, donc il y a Lean et ou Rock qui se placent à ce niveau-là. Et puis donc il y a certains systèmes qui essayent de développer les des notions en utilisant l'axiome d'univalence. Et donc, on va le voir sur cette notion de faisceau. Donc, je vais formuler la notion de faisceau dans le langage de la théorie des types dépendants. Et on va comparer avec ce qui se passe avec univalence et sans univalence. Alors, d'abord, donc, je rappelle, je vais utiliser le langage de la théorie des types dépendants pour décrire ce qui se passe pour les préfaisceaux. Et donc, je rappelle, on a vu donc, dans ce cours, on a vu qu'il y avait comment construire des modèles de préfaisceaux sur une catégorie C. Et donc un point important du cours, c'était que la notion de modèle est en fait une notion essentiellement donc équationnelle. Donc on doit donner des sortes, il y a quatre sortes, et on doit vérifier, définir des opérations et vérifier des équations. Et donc c'est ce qui se passe pour le quand on vérifie que sur une catégorie C, on peut construire un modèle de la théorie des types dépendants où les types sont interprétés par des préfaisceaux. Et ça devient extrêmement simple dans ce, si on pense à présenter les modèles de cette manière-là. On doit interpréter les contextes, les substitutions, les types et les éléments. Alors, qu'est-ce qu'un contexte ? Un contexte sera un préfaisceau sur C. Et un préfaisceau, donc, de manière concrète, c'est une collection d'ensembles, ça doit être ensemble, avec des flèches de restriction qui vérifient certaines équations. Alors, une substitution va être interprétée par une transformation naturelle entre deux préfaisceaux, et un type, donc si gamma est un préfaisceau, qu'est-ce qu'un type sur gamma ? Donc de manière concrète, ça sera une famille d'ensembles A de X rho avec des opérations de restriction. Et je noterai comme ça les opérations de restriction. Et ça c'est concrètement ce que c'est qu'un type dans ce modèle de préfaisceau. Et un élément, c'est une section, donc c'est une famille d'éléments TXRO dans AXRO qui vérifie ces équations-là pour toute flèche F dans la catégorie F de Y dans X. Et là, donc une fois qu'on a défini les sortes, donc on peut définir des opérations et on peut vérifier les équations qui sont nécessaires pour avoir un modèle de préfaisceau. Et alors, donc, il y a deux opérations qui sont difficiles, plus difficiles que les autres à définir. C'est la définition de l'univers et définition des produits dépendants. Donc, je noterai pour Ioneda de X, donc le foncteur, le préfaisceau représenté par X, je vais le noter simplement X. Donc, alors, pour définir les univers, donc on peut introduire une stratification de l'ensemble des types sur gamma en imposant AXRO à être petit, donc être dans l'univers UN. Et on peut définir UN, l'univers, va être défini de la manière suivante. Donc ça va être un préfaisceau global, mais UN de XRO sera défini comme l'ensemble des petits, des types UN petit sur Ioneda de X. Et on a une fonction de décodage qui peut se définir explicitement de cette manière-là. Donc c'est très, très concret et on peut vérifier, donc la fonction de décodage vérifie les équations attendues pour cette fonction de décodage. Et donc la deuxième opération qui est difficile à définir, c'est le produit dépendant. Alors concrètement, donc, ce qui se passe, c'est qu'on va raffiner la définition de l'implication et de l'exponentielle dans les modèles de Kripke. Donc dans les modèles de Kripke, donc une implication A implique B n'est pas définie comme étant si A est valide à un stage donné, P, B sera valide à ce stage-là. Parce que ce qui peut se passer, c'est que dans l'intuition des modèles de préfaisceau ou modèles de Kripke pour la logique intuitionniste, c'est qu'on apprend, on a plus de connaissances. Donc à un stage P, on va peut-être évoluer, avoir plus de connaissances et découvrir que A est valide à un stage futur. Donc l'implication doit tenir compte, la définition de l'implication doit tenir compte de ça. Et donc on peut exprimer ça, en tout cas pour la théorie des types dépendants. On va dire qu'un élément de cet ensemble-là, donc ça ne sera pas une fonction qui va envoyer un élément de A sur un élément de B, mais pour tout stage pour tout donc changement de stage de connaissance, donc pour toute flèche f de y dans x, pour tout élément u mais au stage y, alors on peut appliquer la fonction sur u. Et en plus, on a une condition de cohérence, donc d'uniformité pour ces définitions-là. Donc ça, c'est une définition un peu subtile, mais une fois de plus, elle est tout à fait explicite. Et on peut vérifier les équations donc pour l'abstraction et l'application de la théorie des types. Et finalement, donc on a une interprétation de ce système-là. On a une interprétation de l'égalité stricte. Donc on peut définir le type A égale B au stage X rho comme un sous-singleton, donc un sous-ensemble de l'ensemble, le singleton 0, comme étant, donc intuitivement, il est vide si A et B ont une interprétation différente à ce stage, XRO, ou sinon c'est l'ensemble vide. Alors cette égalité-là vérifie les axiomes de Newperl, donc vérifie les axiomes de Martin-Löf qui sont décrits dans ce livre. Donc en particulier, cette égalité vérifie donc la règle de réflexion. Donc si j'ai une preuve de l'égalité, alors... type A, alors A et B sont égaux strictement dans le type A. Donc cette égalité est vérifiée pour cette interprétation et cette égalité ne satisfait pas donc l'axiome d'univalence. Voilà. Et donc on obtient un modèle de la théorie des types dépendants et donc on peut utiliser ce qui va être très utile ici, le langage des types dépendants pour décrire ce qui se passe sur les préfaisceaux. Donc en particulier dans ce modèle, on a un ensemble, on a un préfaisceau qui peut être pensé comme le préfaisceau, le type des valeurs de vérité. Donc c'est oméga de x, et oméga de x, donc c'est l'ensemble des cribles sur x. un crible, c'est un ensemble de flèches de codomain X, clos par composition. Donc je l'ai déjà. Et sur ce type-là, donc oméga c'est un type de ce modèle, on a une fonction de décodage T qui est définie comme T de X, c'est un sous-singleton. Donc, dans le langage de la théorie des types, on a un type oméga, qui peut être pensé comme un type de valeur vérité, et si P est de type oméga, on a T de P qui est un type, et c'est un sous-singleton, donc c'est un il vérifie que, dans le langage de la théorie des types, donc il vérifie que tout élément A, B de T de P sont égaux. Et alors, donc ça, c'est extrêmement important, parce que ça va permettre de décrire de manière interne, en utilisant le langage de la théorie des types, la notion d'élément partiel de A, d'étendue P. Donc c'est ce type-là. Donc si A est un type dans gamma, et si P est dans le type oméga, alors on peut décrire, on peut former ce type-là. Et ça intuitivement, donc c'est un nouveau type, et il représente donc le type des éléments partiels de type A. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si je regarde donc l'interprétation en utilisant donc la définition compliquée de l'exponentielle, mais là dans ce cas-là, elle va se simplifier. Cet ensemble-là, en fait, il est canoniquement donc isomorphe à l'ensemble des éléments partiels de ce type-là. Donc un élément de cet ensemble-là, ça peut être décrit comme une famille UF dans l'ensemble A, Y, rho F, pour F de Y dans X, mais seulement F de Y dans X qui valide P. Donc F tel que, donc si je regarde l'interprétation de P, X rho, donc ça c'est un crible sur X, F appartient à ce crible-là. Donc c'est une suite d'éléments qui doit vérifier, qui en plus vérifie la condition de cohérence suivante. Donc on a cette égalité-là dans AZ ou FG, si G pour une flèche arbitraire de Z de Y. Donc on peut penser à ça comme un élément partiel de type A. Et donc c'est extrêmement intéressant qu'on ait une description interne conveniente comme ça. Et en fait, donc on peut même définir, puisqu'on a le langage de la théorie des types, on peut définir le type des éléments partiels, de tous les éléments partiels de type A, en utilisant le type somme. Donc ça va être une représentation en utilisant le langage de la théorie des types des éléments partiels de type A. Et comme on l'a vu, donc cette notion d'élément partiel est extrêmement importante pour décrire les modèles de l'univalence en utilisant des idées homotopiques, parce que donc les opérations homotopiques, en fait, ce sont des opérations qui étendent un élément partiel, un élément total. Donc là, un élément total, donc si j'ai un élément total de type A, donc ça va être un élément comme ça, et je pourrais définir, donc AF va être dans A de Y rho F, mais cette fois pour tout F de Y dans X. Donc ça, c'est un élément total du type A. Donc maintenant, on peut exprimer en utilisant ce langage des types dépendants la notion de topologie de Grothendieck. Donc la notion de topologie de Grothendieck, ça va être un ensemble de propositions, un ensemble de cribles. Donc pour un espace topologique, on va prendre les cribles qui recouvrent l'espace. Et si on regarde les propriétés de ces éléments partiels, donc de recouvrement, il vérifie les propriétés suivantes. Donc c'est un ensemble de propositions, donc c'est une flèche de oméga dans oméga, parce que oméga est vu comme le type des valeurs de vérité, et on doit avoir que donc la proposition toujours vraie est dans J, J est monotone, et puis J vérifie cette condition technique, qui est la suivante, qui exprime une condition de localité sur la notion de recouvrement. Donc ça c'est une axiomatisation possible de ce que c'est qu'une topologie de Grothendieck. Et on peut vérifier donc de manière interne en utilisant le langage de la théorie des types, on peut vérifier une autre manière d'exprimer ce que c'est qu'une topologie de Grothendieck. Donc, de manière algébrique, c'est une opération J qui vérifie ces identités-là. Donc ça, ça a été découvert par Lovir et Tierney et présenté dans ce papier. Donc de manière interne, on peut décrire ce que c'est qu'une topologie de Grothendieck. Et maintenant, de manière interne, on va pouvoir définir ce que c'est qu'un faisceau. Donc un type A est un faisceau. Donc si et seulement si, donc la flèche diagonale ou la flèche constante. Donc pour un type A, on a toujours une flèche comme ça. Donc K de A et de X est égal à A. Donc c'est une A est un faisceau, si et seulement si. Donc pour tout P dans la vérifiant J, cette flèche-là est un isomorphisme. C'est une bijection. Donc qu'est-ce que ça veut dire intuitivement? Ça veut dire que si j'ai un élément partiel au type A, d'étendu P ou P dans J, alors je peux l'étendre en un élément total. Et donc comme j'ai décrit donc, ce que c'était une autre manière de décrire l'exponentielle, on retrouve exactement la condition de recollement usuelle donc, de la définition des faisceaux. Étant donné une famille, un élément partiel, donc une famille d'éléments comme ça, compatible. Donc ça, c'est la condition de compatibilité. On peut trouver de manière unique un recollement, donc un élément U dans A de X, qui vérifie ces égalités-là. Donc ça, c'est une définition interne de ce que c'est qu'un faisceau. Et c'est très suggestif. Pourquoi ? Parce que donc, ça fait le rapport avec la notion de forcing. Donc si on voit le fait que cette flèche-là soit un isomorphisme, on peut le penser intuitivement comme étant le fait que le type A pense que la proposition P est vraie. Donc si on se restreint au type qui vérifie cette propriété-là, au faisceau, donc on a l'espoir que dans ce modèle, on va forcer les propositions P à être vraies. Donc, on obtient une condition. Donc, maintenant, ça, c'est vraiment l'intérêt du langage de la théorie des types dépendants. C'est qu'on peut exprimer ça à l'intérieur de ce langage. On peut exprimer qu'est-ce que c'est être un faisceau. Donc, ça va être une formule qui va dire donc, pour tout P dans oméga, si j'ai J de P, alors donc, la flèche KA P, isomorphisme et bijection. Donc ça, je peux l'écrire dans la théorie des types. Donc ça, c'est une condition C de A que je peux formuler. Et on peut vérifier, en fait, que donc ce qu'on attend sur les faisceaux, donc c'est si j'ai une famille de faisceaux sur un type donné, le produit dépendant va être un faisceau. Donc ça, ça généralise pour les types dépendants la propriété bien connue que si B est un faisceau et A est un préfaisceau de quelconque, B puissance A est un faisceau. Mais ça, maintenant, on peut le faire. On peut le vérifier de manière interne en utilisant le langage de la théorie des types. Et c'est très très simple à vérifier. Donc, et on a aussi que si A est un faisceau, et si on a une famille de faisceaux sur A, alors sigma AB est un faisceau. Et finalement, donc on peut vérifier que si A est un faisceau, alors A égale B est un faisceau aussi. Et ça, on peut le vérifier donc, en fait, dans le langage de la théorie des types dépendants. Et en fait, quand on vérifie ces conditions-là, on voit qu'on n'utilise pas que T de P est un sous-singleton. Donc en fait, si on a une famille d'ensemble quelconque, on peut comme ça vérifier ces conditions de clôture. Mais, donc le point, un point intéressant, c'est comme T de P est un sous-singleton, cette flèche-là, pour être un isomorphisme, il suffit qu'elle admet un inverse à gauche. Une flèche faisant cette condition-là. Ce qui n'est pas vrai si T de P n'est pas un sous-singleton. Alors, donc ça c'est intéressant, mais ça c'est intuitivement, c'est quoi cette flèche, l'inverse à gauche? C'est la flèche qui donne le recollement d'une famille partielle. Donc si on a une famille partielle avec des éléments compatibles de A2, on peut les. Donc ils se recouvrent en un élément total. C'est exactement cette flèche qui est inverse à gauche de la flèche comme ça. Donc c'est, c'est une flèche de recollement dans ce langage de la théorie des types. Alors ça, donc, ça résulte directement du fait que T2P est un sous-singleton. Si on a un inverse à gauche, on peut vérifier que c'est aussi l'inverse à droite. Alors, donc la question maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut formuler, donc la clôture par produit dépendant ou par sigma. C'est quelque chose qu'on peut vérifier parce que maintenant on a le langage de la théorie des types dépendants pour décrire les préfaisceaux. Alors une question maintenant, donc on a les univers dans ce langage-là, donc une question naturelle, c'est est-ce que les faisceaux forment un faisceau ? Donc si on forme la collection de tous les faisceaux dans un univers donné, donc c'est ce type-là, donc sigma x dans U C de X, donc intuitivement, c'est la collection de tous les faisceaux sur l'univers U. Et donc une question naturelle, c'est est-ce que cette collection-là est un faisceau ? Donc la définition de faisceau, ça doit être est-ce que cette flèche-là admet un inverse à gauche, donc un recollement. Alors analysons cette question-là. Donc on part d'une famille de faisceaux, donc une famille de type AX qui vérifie la condition de faisceau, donc CX, c'est une preuve que AX vérifie la condition de faisceau, et on veut construire un faisceau. AC. Donc on veut construire un élément de ce type-là. Alors comme on a une famille de faisceaux, AX, un candidat naturel, donc c'est de prendre le produit dépendant. Parce qu'on sait que le produit dépendant d'une famille de faisceaux est bien un faisceau. Donc on obtient de cette manière-là un faisceau, donc A, et une preuve que A est un faisceau. Et alors on doit vérifier maintenant la condition que R est un inverse à gauche de K. Donc R, c'est la flèche de recollement. On doit vérifier que R de K de U est égal à U. Donc ici, U, c'est un faisceau AC. Et on doit vérifier cette égalité-là. Alors, si on fait les calculs, K de AC, c'est la famille constante. Donc, c'est la famille constante AX, CX, égale à AC. Alors, qu'est-ce que le produit dépendant sur XP, sur T2P, de cette famille-là, ça va être simplement l'exponentielle A puissance TP. D'accord. Et puis la preuve, donc comme c'est une proposition, en fait, on sait automatiquement, pour vérifier l'égalité, on a seulement à vérifier la première composante. Mais, donc le problème ici, dans ce cadre-là, c'est que A puissance T2P, on sait qu'il est isomorphe à A, donc comme préfaisceau, on a un isomorphisme, mais on n'a pas une égalité stricte. Et pour vérifier ce que c'est qu'un faisceau, il faut une égalité stricte. Donc on a un problème, c'est que A puissance T2P est seulement isomorphe et n'est pas égal à A. Donc dans ce cadre-là, la collection des faisceaux sur un univers donné n'est pas un faisceau. Et ça, donc, c'est un phénomène qui est donc bien connu en mathématiques. Donc c'est quand on veut recoller des faisceaux, on doit avoir une notion de recollement qui est plus subtile. Donc qui est, au lieu d'être condition de recollement 2 par 2, compatibilité 2 par 2, si on exprime la condition de recollement en termes de Chetch, on doit l'exprimer par une condition de recollement 3 par 3 avec des isomorphismes. Et c'est une condition différente de celle de faisceau. Donc ça, c'est ce qui se passe dans ce cadre-là quand on regarde la notion de faisceau. Alors, donc c'est la situation de la théorie des types, donc comme formulée dans le livre de Martin Loff en 1984. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cadre univalent ? Donc, dans un cadre univalent, donc, on a la notion de proposition. Maintenant, la notion de proposition, donc, au lieu d'avoir un type des propositions, on dit qu'une proposition, c'est exactement un type, maintenant. Donc, une proposition au sens de Wovowski, c'est un type P qui vérifie qu'on peut prouver pour tout A. Élément A et B de P, on peut prouver cette égalité-là. Donc c'est un type B qui vérifie cette proposition au sens de Wovowski. Si on veut reformuler cette notion de faisceau, on va considérer maintenant donc une famille de propositions qui vérifie une propriété J de P. Mais c'est une proposition au sens de Wobowski. Et maintenant, donc, au lieu de dire que la flèche, la condition de faisceau, au lieu de dire que cette flèche-là est un isomorphisme, donc tout naturellement, dans une théorie des types avec univalence, on va demander que cette flèche-là est une équivalence, au sens de Wobowski. Et alors, donc, on peut, maintenant on est dans un cadre univalent, on peut vérifier une fois de plus donc, que cette notion de faisceau, cette nouvelle notion de faisceau, est stable par produit dépendant, est stable par sigma type. Et maintenant, donc, ce qui est nouveau, c'est que c'est stable par, par égalité. Donc, vérifions juste donc, la stabilité par égalité. Donc, on doit vérifier que la flèche canonique est une équivalence, si elle est une équivalence pour A. D'accord. Et en fait, donc, ce qui se passe, c'est que par extensionnalité, cette flèche-là, donc ça c'est K, est équivalente à KA égale KB. D'accord. Donc ça revient à vérifier que si K est une équivalence, alors la flèche correspondante sur les égalités est une équivalence, et ça c'est prouvable en théorie des types avec, avec univalence. Donc si K est une équivalence, cette flèche-là est une équivalence. Donc la condition d'être un faisceau est bien stable par, par égalité. Alors, mais cette fois, donc si on reprend la preuve pour l'univers, avec cette notion de recollement, donc la notion de recollement, je rappelle, donc c'est si R, donc si on a une famille lambda x à x, c'est x, la condition de recollement, c'est le produit de AX et la preuve que c'est bien un faisceau. Dans ce nouveau sens univalent. Et on a vérifié, donc si on applique ça à la famille constante, RK de AC, eh bien on obtient A puissance T et une preuve que A puissance T est un faisceau. Mais cette fois, comme la flèche canonique de A dans A puissance TP est une équivalence, par l'axiome d'univalence, les deux types sont égaux, et on a bien un inverse à gauche. Donc on voit que la situation est vraiment différente dans un cadre univalent que dans un cadre dans le cadre de la théorie des types dépendants extensionnelle, donc qui vérifie ce principe-là. Donc on obtient le théorème suivant. Donc si J de P est une propriété sur les propositions, on définit C de A comme étant la propriété que J de P entraîne que la flèche K est une équivalence, alors les types vérifiants C forment un modèle de la théorie des types, cette fois avec univers. Donc non seulement ils sont clos par produit dépendant, par sigma et par égalité, mais ils sont aussi clos par l'univers. Donc dans ce cadre-là, la collection des faisceaux forme bien un faisceau. Alors, dans une approche ensembliste, donc la collection des faisceaux pour un univers donné ne forme pas un faisceau, mais un champ. La collection des champs ne forme pas un champ, mais un deux champs, et ainsi de suite. Dans ce cadre-là, on obtient ce qui correspond donc à la notion de, on peut dire, infinité champ ou infinité faisceau. Et la collection, donc, quand on va à l'infini, la collection des infinis faisceaux forme un infini faisceau. Donc, c'est tout à fait remarquable. C'est un phénomène tout à fait remarquable qui se passe parce qu'on a une théorie des types avec univalence. Donc on obtient un nouveau modèle de la théorie des types, et en plus, on peut vérifier que ce nouveau modèle pour cet univers, donc le nouvel univers sera celui-là, ce nouveau modèle vérifie aussi l'univalence. Alors le problème, quand on forme ce modèle interne, c'est qu'il peut devenir trivial. Même si on part d'un modèle non trivial, peut-être en forçant les types à être des faisceaux, on va obtenir le modèle trivial. Alors une condition suffisante pour le modèle à être non trivial si on part d'un modèle non trivial, c'est que le type absurde, lui, est un faisceau. Donc si on a ça, on est sûr que comme absurde n'a pas d'éléments, si on part d'une théorie un modèle non trivial. Le type absurde ne va pas avoir d'éléments et donc il ne va pas avoir d'éléments aussi dans le modèle des faisceaux. Et si on analyse cette condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout P, donc on a cette implication-là. Ça veut dire ça. Et ça, c'est exactement donc P implique absurde, implique absurde. Donc c'est exactement non non P. D'accord. Donc on obtient une condition suffisante pour obtenir un modèle non trivial. C'est que pour tout P dans J, on a non non P. Donc, alors, une fois de plus, donc ça je l'ai décrit plusieurs fois, quand on a un modèle interne, on peut le décrire de manière syntaxique. Donc, c'est une transformation syntaxique élégante. Donc, syntaxiquement, on a des constantes qui sont des témoins qu'un produit de faisceau est un faisceau, somme dépendante de faisceau est un faisceau, et puis l'univers est un faisceau. Et en utilisant ces constantes, donc on peut décrire de manière purement syntaxique, donc une traduction de la théorie des types vers elle-même, qui est une traduction donc, un peu différente pour les types et les éléments. On a ce nouveau... la traduction d'un type en général, ça va être un couple, un type, et une preuve que ce type est un faisceau. Donc on peut utiliser les constantes pour décrire cette traduction-là. On va avoir cette nouvelle traduction donc, qui prend la première projection. On peut définir les contextes et on obtient le théorème suivant. Donc si on part d'un jugement dans la théorie des types, en faisant cette traduction-là, on aura un jugement valable de cette manière-là. Donc ça a été... donc c'est essentiellement cette manière de voir les choses, syntaxique de voir les choses. Donc c'est les travaux qui ont été faits à Nantes, donc autour de Nicolas Tabarot, Pierre-Marie Pedro, et dans la thèse, donc pour ce cas des modalités, ça a été décrit dans la thèse de Kevin Quirin. Et alors, donc cette traduction-là est très commode, parce que donc en utilisant cette traduction, on peut traduire ce que veut dire le principe d'univalence dans ce nouveau modèle, ce qu'il veut dire en théorie dans l'ancien modèle, et on peut vérifier, en fait, de cette manière, on peut vérifier que le principe d'univalence est valide dans le modèle interne. Alors, ceci donne un outil très général, parce que donc, ça donne un outil pour construire de nouveaux modèles de la théorie des types avec univalence, et c'est tout à fait similaire, donc, comme je l'ai décrit, donc, à la technique de forcing. Donc, intuitivement, on force, en se plaçant dans ce nouveau modèle, on force les propositions P à devenir vraies. Donc, un exemple de cette technique-là, donc, c'est pour la thèse de Church. Donc là, il y a un phénomène extrêmement intéressant donc, au niveau... dans ce qui se passe dans ce modèle-là. Donc d'abord, la thèse de Church, donc ça c'est la formulation si on veut l'écrire en théorie des types. Donc pour toute fonction f de n dans n, il existe un code de la fonction. Donc qu'est-ce que ça veut dire être un code de la fonction? Donc c'est pour tout n, il existe un cas tel que si on lance la machine de Turing de code E sur l'entier n, il va se terminer en k étapes. Et puis en plus, donc, on a la fonction de décodage qui calcule le résultat de ces étapes de la machine de Turing. C'est la fonction U, donc là, c'est les notations de Clini. Donc U de K est égal à F de N. Alors, donc on peut formuler la thèse de Church de deux manières, donc avec un sigma ou avec un il-exist, donc existence forte ou existence faible. Alors, comme la théorie des types univalente vérifie l'extensionnalité pour les fonctions, en fait, on a la négation de ce principe-là. Donc ça, c'est intuitif, parce que si on a une fonction de codage qui est des fonctions qui est extensionnelle, on va pouvoir décider l'égalité extensionnelle des fonctions récursives. Et ça, c'est, intuitivement, ce n'est pas possible. Et en fait, donc, on peut internaliser ce raisonnement-là et montrer la négation de ce type en théorie dans une théorie des types avec extensionnalité. Donc ça, ça a été remarqué par Troelstra. Donc pour Martin Löf, en fait, c'était une des raisons pour laquelle il a abandonné cette version de la théorie des types avec extensionnalité. Et une théorie des types intentionnelle, c'était parce que la théorie vérifiait la négation de la thèse de Church. Donc on ne s'attend pas que la théorie des types prouve la thèse de Church, mais on s'attend au moins qu'elle soit compatible avec la thèse de Church. Alors, dans un cadre univalent, donc, la situation est vraiment intéressante parce qu'on a une version faible de l'existence et on peut énoncer la thèse de Church de cette manière-là. Et alors, donc le résultat dans ce papier, c'est qu'ils ont construit un modèle de la théorie des types avec univalence qui vérifie ce principe-là. Et alors, donc le modèle, c'est très naturel comment le construire. C'est on va partir d'un cadre récursif, donc un modèle de réalisabilité. En utilisant le fait qu'on a des modèles constructifs de l'univalence, on va utiliser donc une version récursive de ce modèle constructif. Et on s'attend que la thèse de Church soit valable dans ce modèle. Et alors la surprise, c'est qu'en fait, dans ce modèle-là, pour des raisons... donc c'est exactement la même situation que si on considère le modèle des groupoïdes et on regarde la thèse de Church formulée de cette manière dans le modèle des groupoïdes, la thèse de Church va devenir fausse. Donc c'est en utilisant ce résultat de Troelstra, en fait. Donc c'est un peu... décourageant, mais alors donc l'idée qui est dans ce modèle, c'est qu'elle est fausse, mais on a la double négation de cette proposition-là. Et donc, on va utiliser la technique de forcing. Comme on a la double négation de ces propositions, on peut les forcer à être vraies. Donc ce qu'on va faire, lorsqu'on va utiliser cette technique-là, on va nullifier ces propositions et la rendre vraie. Donc c'est ce qui est fait dans ce... Et donc techniquement, il y a beaucoup de choses à vérifier, mais tout marche bien. Et la même méthode montre que l'on peut forcer le principe de Markov dans ce modèle. Donc c'est la même chose, là on a une famille de propositions indexées sur alpha, et on peut les forcer à être vraies. On peut aussi utiliser cette technique de forcing pour construire un modèle où le principe de Markov est faux. Donc en fait, on obtient que le principe de Markov est indépendant de la théorie des types avec axiome d'univalence. Et ça, c'est vraiment donc une application de l'utilisation de modèles constructifs de l'univalence. Et alors, de la même manière, on peut montrer donc, que l'axiome des choix dénombrables, donc il y a une formulation très élégante dans cette théorie des types avec univalence, l'axiome du choix dénombrable aussi, on peut construire un modèle où... l'axiome du choix dénombrable n'est pas vrai. Et alors, donc ça c'était la situation à peu près il y a 6 ans. Et donc tous les modèles constructifs qu'on avait de l'univalence, en fait on n'arrivait pas à construire un modèle constructif qui vérifiait l'axiome du choix dénombrable. Donc si on regarde le modèle simplicial, il vérifie bien l'axiome du choix dénombrable, mais ce modèle simplicial, comme je l'ai expliqué, est seulement construit dans un cadre classique, non constructif. Alors, donc maintenant, ce que je vais essayer de décrire, donc c'est comment construire un modèle constructif dans un cadre constructif de l'univalence qui, en particulier, donc, vérifie l'axiome du choix dénombrable. Alors d'abord, cette technique... Cette explication de ce que c'est qu'un faisceau, donc ça utilise cette opération-là sur les types, d de x, x puissance p. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la version en théorie des types d'une modalité. Donc une modalité, c'est une opération sur les propositions, qui prend une proposition, qui donne une proposition. En théorie des types, naturellement, une modalité, ça va être une opération sur un type, qui donne un type. Donc ça, cette opération-là, c'est une modalité. Donc, je ne vais pas décrire toutes les lois de modalité, mais donc entre autres, donc on a une application. Donc x implique d de x. Donc ça c'est vrai pour certaines modalités. C'est vrai pour cette modalité-là. Et en fait, donc cette modalité-là. C'est un analogue d'une monade donc, pour langage fonctionnel. Donc, on a la notion de monade idempotente. Et donc ça généralise cette notion de monade idempotente à la théorie des types. Donc on peut vérifier ces égalités-là. Donc D est un foncteur, comme une monade, et il a cette flèche, une flèche comme ça, et on peut vérifier ces égalités. Et donc ça entraîne qu'un type, si A est D-modal, donc D-modal, ça voudrait dire que cette flèche canonique est une équivalence, si A est, D, si A est modal, alors D de A est modal. Alors c'est une sorte spéciale de modalité, c'est ce qu'on appelle donc modalité exacte à gauche. Et donc, comme on a vu, une propriété donc essentielle de ce genre de modalité, c'est que si on se restreint au type modo, on obtient un nouveau modèle de la théorie des types avec une équivalence. Donc ça, ça a été vraiment donc mis au point par Max Schulman, avec discussion avec Urs Schreiber, en fait. Donc il a introduit et étudié, donc dès 2012, même 2011, cette notion de modalité en théorie des types dépendants. Et donc ce qui est remarquable aussi, c'est que dès le départ, donc il a formalisé tous les résultats de base qu'on peut dire sur cette notion de modalité, étaient formalisés dans un système formel, vérifié sur machine. Alors cette notion, donc, je ne vais pas la présenter en détail, en fait, je vais me restreindre à cet exemple et à un autre exemple, mais c'est étudié en détail dans ce papier, donc sur les modalités, et aussi, donc là, tous les résultats de ce papier sont vérifiés sur machine. Et donc un aspect intéressant de cette notion de modalité, c'est que tout peut se faire de manière interne. Donc on peut exprimer ce que c'est qu'une modalité sans exiger donc que D soit un foncteur strict. Et donc on peut vérifier les preuves sur machine. Et comme je l'ai dit, donc cette notion de modalité exacte à gauche peut être vue comme une notion analogue de la notion de monade idempotente. Et donc la modalité exacte à gauche que je vais présenter de Christian Sattler, c'est un exemple de modalité qui n'est pas de cette forme-là, qui n'est pas exponentielle par une proposition. Alors, donc maintenant, donc pourquoi c'est intéressant d'avoir des nouveaux modèles de la théorie des types, à part prouver des résultats d'indépendance, c'est parce que donc on va construire de nouvelles structures de modèles de Quillen. Donc en particulier, donc je vais donc reprendre ce que j'ai présenté il y a deux leçons. Donc le modèle construit sur la catégorie des ensembles ordonnés finis non vides. Alors cette catégorie donc contient la catégorie du modèle simplicial, qui a pour objet les ensembles totalement ordonnés non vides. Et on a vu, donc pour avoir un modèle constructif de l'univalence, qui va être un modèle aussi interne à la modèle des préfaisceaux sur ces catégories-là, donc pour la catégorie delta, donc comme je l'ai expliqué, les preuves usuelles qu'on obtient un modèle de l'univalence ne fonctionnent pas dans un cadre constructif. Mais elles fonctionnent pour cette catégorie-là. Mais pour avoir un modèle constructif, donc il faut se restreindre à certaines propositions. Donc on va introduire un sous-type du type des valeurs de vérité, qu'on peut faire en général. Donc phi, c'est un sous-préfaisseau de type oméga. Phi de x, donc c'est l'ensemble des cribles décidables sur x. Et pour ces catégories-là, donc on aura un objet particulier, donc c'est l'objet 1. Et donc je vais le noter aussi, l'intervalle, ça va être le faisceau représenté par cet objet 1. Ça va jouer le rôle de l'intervalle pour ces modèles de préfaisseau. Donc je vais avoir deux types particuliers dans ce modèle de préfaisseau, donc le type des phi, qui va être le type des cofibrations, et le type intervalle. Et ça, c'est les deux outils qui me permettent de construire un modèle de l'univalence. Alors, comme l'objet oméga, on peut utiliser phi pour définir une notion d'objet partiel. Mais donc, phi, intuitivement, donc c'est des objets partiels qui ont une forme donnée. Donc, l'intuition, c'est que si j'ai un objet qui a une forme un carré, donc un objet partiel pour phi, ça va être une des faces de ce carré, ou un des points de ce carré. Ça serait l'intuition. Et donc, comme on l'a vu, donc on peut utiliser ces outils-là pour définir la notion de type fibrant qui vérifie donc une condition de remplissage d'une boîte ouverte ou de fermeture en fait d'une boîte ouverte. Donc il y avait les conditions de le dessin, c'était celui-là. Si j'ai une boîte ouverte, donc je peux soit la remplir, soit la fermer. Donc on a deux opérations. Et pour ces exemples-là, il suffit de la condition de fermeture est équivalente à la condition de remplissage. Donc ça, c'est vrai aussi pour les ensembles simpliciaux. Et comme je l'ai expliqué, donc ça permet de simplifier la vérification qu'on a un modèle de la théorie des types dépendants sur la, avec univalence sur la catégorie des ensembles simpliciaux. Alors, donc la propriété qui essentielle qui distingue les deux catégories delta et carré, box, boîte, c'est que dans cette catégorie-là, cette catégorie est cartésienne. Donc si je prends deux ensembles ordonnés finis non vides, j'ai le produit de ces deux ensembles ordonnés finis non vides. Alors ce n'est pas vrai si les ensembles sont linéairement ordonnés. Donc la catégorie delta n'est pas cartésienne. Et en particulier, donc, cet objet 1, il va être atomique dans ce cadre-là et ne sera pas atomique pour la catégorie delta. Et donc ça, c'est la propriété clé qui me permet d'utiliser cette propriété de remplissage de boîte ouverte pour définir les univers de manière satisfaisante. Et alors donc, comme je l'ai expliqué, la première étape, c'est de montrer que ce type-là est contractile, ce qui veut dire que tout objet partiel de ce type, c'est un élément total. Donc ça, c'est une opération qui se décrit, qui se programme, qui permet de réaliser cette condition-là. Et puis, on en déduit, donc en utilisant le fait qu'il suffit d'avoir la condition de fermeture, on en déduit directement de cette propriété-là que l'univers des types fibrants donc, vérifie la condition de fermeture des boîtes ouvertes, et donc c'est un type fibrant, ce qui simplifie donc, la preuve que l'univers est fibrant dans ce modèle. Et comme je l'ai expliqué, donc, on obtient une structure de modèle de Quillen. Donc les cofibrations sont les flèches qui sont classifiées par phi, donc qui correspondent à des cribles décidables. Les fibrations donc, sont définies par la propriété de remplissage ou de fermeture des boîtes ouvertes. Et une fois qu'on a les cofibrations et les fibrations, donc ça détermine de manière unique la notion d'équivalence faible. Et on peut vérifier, donc en utilisant le fait qu'on a un modèle de l'univalence, on vérifie qu'on a une structure de modèle de Quillen. Et en plus, donc c'est une structure de modèle de Quillen qui vérifie des propriétés fortes, donc la propriété de Frobenius, qui correspond au fait qu'on a les types dépendants sont clos, être fibrant est clos par type dépendant, par produit dépendant, une propriété d'extension d'équivalence et une propriété donc extension de fibration le long de cofibration triviale et qui correspond au fait que oui, l'univers est fibrant. Donc, pour construire en fait, la structure de modèle de Quillen, on utilise ces propriétés-là. Donc, c'est l'approche duale de celle de Wovowski. Donc, Wovowski, ce qu'il faisait d'abord, c'était qu'il prouvait que ces propriétés-là étaient valables pour la structure de modèle sur les ensembles simpliciaux, et il utilisait ça pour construire un modèle de l'univalence. Donc, ici, on fait le contraire. On construit un modèle de l'univalence et on utilise ce modèle de l'univalence pour vérifier qu'on a une structure de modèle de Quillen. Alors, donc la notion de fibration triviale donc, correspond au fait que chaque fibre est contractile. Et être contractile, c'est vraiment étendre un élément partiel en un élément total. Et ça, c'est la même chose en fait pour les ensembles simpliciaux. C'est être contractile, c'est la même chose qu'être injectif. Alors, donc le problème, pour avoir une structure de modèle, c'est une propriété de factorisation. Donc on doit vérifier que toute flèche, si j'ai une flèche de A dans B, je peux la factoriser de deux manières différentes. Donc je peux la factoriser en une cofibration et une fibration triviale, ou je peux la factoriser en une cofibration triviale et une fibration. Donc c'est les deux propriétés de factorisation qu'il faut vérifier. Et alors, donc dans ce cadre, donc regardons la première propriété de factorisation. Donc la surprise, c'est qu'en fait, et ça c'est vrai aussi pour les ensembles simpliciaux, c'est qu'en utilisant le langage donc interne, la théorie des types dépendants, c'est en fait très simple de faire cette factorisation. Donc la factorisation de F en une cofibration et une fibration triviale est directe de manière interne. Donc de manière interne, c'est quoi l'intuition? C'est qu'on va prendre pour C, on va prendre donc le type des triplets, psi, UV. Donc U, c'est quoi? C'est un élément partiel de A détendu psi. Et sur psi, c'est une fibre de B. Donc c'est un ensemble de fibres partielles, en fait. Donc ça, c'est une définition très simple de manière interne. Et on a une flèche I. Donc I de A, c'est la valeur de vérité vraie. La flèche, l'élément total. Donc c'est l'élément total A et F de A. A est bien dans la fibre de F de A. Et P, la flèche P, donc cette flèche de projection, c'est juste l'application, donc on a B, donc on projette sur B. Donc on factorise comme ça une flèche quelconque en une, et on peut vérifier donc que ça c'est une cofibration et ça c'est une fibration triviale. Et ça, la vérification se fait de manière interne. Donc ça c'est aussi une application du langage interne pour décrire ce qui se passe dans les modèles de préfaisceaux. Et alors une application de cette factorisation, c'est un problème de programmation. C'était qu'on avait on pouvait programmer l'égalité univalente, mais on avait un problème, c'est que cette égalité univalente ne vérifiait la loi de calcul seulement de manière propositionnelle et pas de manière stricte comme loi de calcul. Et cette factorisation permet de résoudre ce problème-là. Donc ça a été fait par Andrew Swan. Donc, qu'est-ce qui se passe interprétation au niveau de la théorie des types? C'est que comment fabriquer l'égalité? Donc l'égalité, en fait, correspond à factoriser la diagonale en une cofibration triviale et une fibration. Donc si on a une factorisation de cette manière-là, on peut vérifier, donc on va avoir une cofibration triviale ici, si on a une fibration sur... sur le type identité, et une flèche comme ça, un diagramme commutatif comme ça, alors la propriété pour les structures de modèles, c'est qu'on peut on peut trouver une flèche comme ça qui rend ce diagramme commutatif, et ça c'est exactement la loi de calcul de l'égalité en théorie des types de Martin Love. Donc ça c'est très bien expliqué dans ce papier. Et donc ici la situation c'est la suivante: on a presque cette factorisation de delta, mais c'est avec ce type exponentiel, donc par rapport à l'intervalle. Donc ça c'est bien une fibration, mais alors maintenant, donc ça c'est bien une équivalence, mais dans un cadre constructif. Donc le problème, c'est que cette flèche-là n'est pas une cofibration. Donc elle va être classifiée par oméga, mais elle ne va pas être classifiée par phi. Donc en général, donc le problème, c'est toujours le même problème, on ne peut pas décider en général si un élément est dégénéré ou non. Donc là, on a une flèche qui est une équivalence, mais qui n'est pas une cofibration. Et pour avoir ce diagramme-là, donc c'est essentiel d'avoir une cofibration. Donc la remarque d'Andrew Swan, ça a été... La remarque suivante, c'est qu'on va factoriser cette flèche-là en une cofibration et une fibration triviale. Donc, factorisation qui est facile à faire dans ce modèle-là. Et comme cette flèche-là est une équivalence, on a une structure de modèle de Quillen on a la propriété donc 3 pour 2, 2 pour 3. Cette flèche-là, qui est bien une cofibration, va être une équivalence aussi. Et c'est comme ça, donc dans un cadre constructif, qu'on construit cette factorisation. Et c'est très simple à faire. Donc, et on obtient, donc, de cette manière-là, on obtient un raffinement de l'interprétation de l'égalité. Donc l'égalité, donc la première interprétation, c'est que c'est un chemin, donc une flèche de l'intervalle dans A qui part de A0 et qui va sur A1. Et ici, on la raffine en ajoutant une configuration psi et la condition que sur psi, ce chemin est constant. Donc c'est une transformation très simple, une fois qu'elle est faite, de l'interprétation de l'égalité. Et on vérifie, donc maintenant on vérifie que ce type-là est fibrant et est bien un modèle de l'égalité tel que voulu par Martynov. Donc, ça peut se programmer. Et c'est, pour moi, ça a été très étonnant. Donc c'était un problème de ce modèle. C'est qu'on n'avait pas, la loi n'était pas vérifiée de manière stricte et je ne m'attendais pas du tout qu'on puisse modifier le modèle pour la rendre stricte. Et donc, ce qui est peut-être étonnant, c'est que des idées venant de la théorie des modèles de structure de Quillen s'appliquent à un problème de mathématiques constructives pour rendre une flèche stricte, une égalité stricte. Alors, je vais décrire rapidement donc, l'autre factorisation. Alors, elle se décrit aussi de manière interne, en remarquant que pour les types globaux, on peut décrire de manière interne ce que c'est être fibrant. Donc être fibrant, ça peut être décrit aussi par une opération de manière interne, c'est qu'on a une opération comme ça, qui prend un élément de B, un chemin partiel, qui, tel que le début du chemin partiel soit compatible avec V, et ce que dit cette opération, c'est que ce chemin va dans, donc je vais faire un dessin. On a un élément V qui est total et on a un chemin partiel comme ça qui part d'une partie de V. Et alors ce que dit cette condition de remplissage, c'est que cet élément-là, donc ça c'est à 0 et ça c'est à 1, cet élément-là peut s'étendre en un élément total. Donc c'est la condition de remplissage des boîtes exprimée de manière interne. Et ça c'est une opération qu'on peut décrire de manière interne, comme ça. Alors une fois qu'on a une description interne, on peut construire donc un cas particulier de ça, c'est le remplacement fibrant de A quand B est égal à 1, ce qui suffit en fait de construire ça, et on peut le décrire par une définition inductive. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une nouvelle sorte de définition inductive dans ce modèle de Préfesseau, c'est que c'est une définition inductive, mais on a des conditions de partialité. Donc elle doit vérifier certaines égalités strictes. Et ça, donc cette nouvelle notion de définition inductive, qui est valable dans ces modèles de Préfesseau, donc a été appelée donc type W avec réduction. Et en fait, donc là encore, ce sont des notions qui se programment. On peut les programmer. Donc on peut programmer avec cette nouvelle notion de définition inductive. Et ça correspond donc exactement à ce qui s'appelle donc l'argument du petit objet en théorie des types, en théorie de l'homotopie, dans ce cadre spécial des modèles de Préfesseau. Alors une fois de plus. Donc tous ces résultats-là ont été formalisés. La vérification qu'on obtient une structure de modèle de Quillen a été donc formalisée sur machine, donc dans la thèse de Simon Boulier, et décrite dans ce papier-là. Le fait qu'on a une structure de modèle, ça a été observé par Christian Sattler il y a 10 ans. Et comme je l'ai dit, c'est tout à fait dual de l'approche de Bobovsky. Alors donc, en particulier, on obtient une structure de modèle de Quillen sur la catégorie des U préfesseaux sur cette catégorie des ensembles ordonnés finis non vides. Alors, donc on peut se demander est-ce que cette structure de modèle est équivalente à la structure des ensembles simpliciaux? Alors, donc malheureusement, elle ne l'est pas. Donc, on peut donner donc, dans les transparents. Donc, je donne un exemple de la situation suivante. Donc, c'est un contexte gamma. Et en fait, donc, c'est le contexte le plus simple qui utilise le fait que j'ai des ensembles non linéairement ordonnés. Donc, c'est le préfaisceau représenté par l'ensemble à deux éléments 0, 1. Donc, sur ce préfaisceau, on peut vérifier, donc c'est direct de vérifier que cette flèche-là est un isomorphisme. Donc, ça correspond au fait que si je regarde ce que c'est que donner une fonction de. Donc, je dois donner une fonction de x dans 0, 1. Ou une fonction de x croix 1 dans 0, 1. Comme les éléments sont incomparables, donc donner une fonction comme ça, c'est la même chose que donner une fonction comme ça. Enfin, je n'ai pas le choix pour étendre. Cette flèche-là est une bijection. Et donc, en fait, sur ce type-là, tout type est fibrant. Et alors, donc sur ce type, c'est facile de construire un type A. Donc, qui va être le type singleton 1 si ρ est constant et la flèche constante, et vide si ρ n'est pas la flèche constante. Je ne veux pas décrire en détail ce qui se passe, mais c'est juste pour dire que le contre-exemple est très simple. Et alors, qu'est-ce que ce contre-exemple me donne? Il me donne la situation suivante, c'est que j'ai une fibration comme ça dans ce modèle, une fibration telle que toutes les fibres sont contractiles. Donc, si je prends une fibre, elle est contractile, mais je n'ai pas de section. Donc, je n'ai pas de section de cette fibration là. Alors, ça ne peut pas se passer pour les ensembles simpliciaux. Donc pour les ensembles simpliciaux, quand on a une section sur les fibres, en fait on peut étendre cette section par induction sur la dimension. Donc en fait il résulte de ce contre-exemple-là que la structure de modèle que l'on obtient ne peut pas être équivalente, même dans une métathéorie classique, à la structure de modèle sur les ensembles simpliciaux. Il y a eu un mouvement de recherche donc de modèles constructifs de l'univalence qui donne une structure de modèle équivalente à celle des ensembles simpliciaux. Donc on avait réussi à construire un tel modèle dans ce papier, en particulier donc une fibration telle que chaque fibre est contractile a une section. Donc ça doit être A doit être une proposition. Pardon. C'est essentiel. Donc on avait réussi à construire ça, mais c'était seulement dans un cadre, dans une métathéorie classique. Et donc ça, c'est une question qui je pense, donc est vraiment fondamentale pour les mathématiques constructives, mais même donc pour les mathématiques tout court. C'est est-ce qu'il y a de bonnes notions de type d'homotopie dans un cadre constructif? Et ça, c'est une question donc, qui est étudiée dans ce papier de Mike Shulman. À la fin du papier, donc il dit que si on arrive à faire ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on regarde les types qui sont des ensembles au sens de Vovovsky, ils vont plutôt correspondre au setoïde, la notion de setoïde en mathématiques constructives, que à la notion d'ensemble. Ou donc il donne une alternative où il faut modifier de manière radicale la notion d'homotopie. Alors, ce que je vais présenter, donc, c'est une notion de type d'homotopie constructive qui, en fait, on est dans la première situation. Si je regarde les ensembles dans ce modèle-là, ça correspond vraiment à la notion de setoïde en mathématiques constructives. Alors, donc voilà la solution de Christian. Donc, elle est techniquement, la définition est très simple. Donc là, j'ai donné dans les transparents, j'ai donné une définition concrète. Donc en fait, la manière catégorique d'exprimer les choses, c'est qu'on a on a la catégorie delta plus, donc les flèches injectives, strictement monotones. On a une flèche comme ça, et à cette flèche-là, donc, on peut associer donc, une monade sur les préfaisceaux, sur cette catégorie-là. Donc c'est ça que je décris de manière concrète dans ce transparent. Voilà la définition de D, qui va être une modalité exacte à gauche. Donc si A est dans le type gamma, D de A va être défini comme ça. Donc l'ensemble des familles qui vérifient cette condition-là. Et alors on peut vérifier que... Donc la condition la plus difficile à vérifier, c'est que D préserve les types fibrants. Et ça, cette condition-là de vérification, donc ça, la preuve de ce fait-là, il correspond exactement à l'équivalence, ce qu'on avait vu pour les ensembles simpliciaux. Donc la propriété pour les ensembles simpliciaux, on a deux conditions d'être fibrant, une condition avec des remplissages de cornets, une condition avec remplissage de boîte ouverte. Ces deux conditions sont équivalentes, mais dans un cadre classique. Mais la preuve de ça ressemble à la preuve du fait que D préserve les types fibrants. Et de manière surprenante, donc l'autre condition dont on a besoin pour vérifier qu'on a une modalité exacte à gauche, qui est la condition donc être une monade idempotente, cette condition-là est très facile à vérifier et est vraie pour un type quelconque. Donc pour un type quelconque non nécessairement fibrant, il est direct de définir un chemin entre ces deux objets. Donc cette opération définit une modalité exacte à gauche et on obtient donc un nouveau modèle de la théorie des types avec univalence en se restreignant au type des modaux. Et alors pourquoi donc c'est intéressant? C'est que maintenant donc, on a cette propriété-là. Si on prend un type fibrant qui a une proposition dans type gamma, donc toute famille d'éléments, donc si on a une section sur les... Si toute fibre est contractile, alors on peut l'étendre constructivement d'une section. Donc intuitivement, donc une section, mais si on part d'un type quelconque A, ça va être une section qui va aller dans D2A. Donc l'intuition est la suivante, c'est qu'on va construire cette section par induction sur la dimension. Donc la section est donnée sur les points. Alors sur les lignes, comme on a une proposition, on peut étendre la section sur les lignes. Ensuite, comme le type est fibrant, on va pouvoir l'extendre sur les triangles, et ainsi de suite. Et comme donc on part de la condition d'être de D de A, c'est une condition qui ne parle que des faces et pas des dégénérescences, en fait, il n'y aura jamais le problème de décider si un élément est dégénéré ou pas, et on peut fabriquer de manière constructive cette section. La section va être dans D de A, si A est un type modal, A et D de A sont équivalents, donc on va obtenir une section sur A. Donc ça c'est la propriété qu'on voulait pour les modèles de l'univalence, pour avoir, donc entre autres, on a un corollaire, c'est que le modèle donc, des types des modaux vérifie l'axiome du choix dépendant. Donc ça résout un problème de est-ce qu'on a des modèles constructifs qui vérifient l'axiome du choix dépendant. Alors, maintenant, comme on a un nouveau modèle de l'univalence, on va avoir une nouvelle structure de modèle sur cette catégorie des préfaisceaux sur les ensembles ordonnés non-vides. Alors, la notion de cofibration reste la même. Donc, c'est une flèche classifiée par les cribles décidables. Et la notion de fibration a changé. C'est, au lieu d'être une fibration, ça va être quoi? Ça va correspondre à un type A. Ça va être une flèche comme ça pour un type A qui est fibrant et qui est modal. Donc, démodal. Donc intuitivement, l'intuition, c'est que ce type-là se comporte comme un ensemble semi-simplicial. Mais malheureusement, donc ça c'était un essai qu'on avait fait, c'était construire un modèle avec les ensembles semi-simpliciaux directement, mais ça ne marchait pas, donc on n'arrivait pas à interpréter de manière satisfaisante les produits dépendants sur ce modèle-là. Et l'univers était très compliqué. Ici, tout se passe bien, donc parce qu'on obtient, on part d'un modèle de l'univalence sur les préfaisceaux, et on le restreint à un modèle interne, où les types intuitivement se comportent comme des ensembles semi-simpliciaux. Donc on obtient de cette manière une structure de modèle de Quillen sur cet ensemble de préfaisceaux, qui vérifie donc le principe de Whitehead. Et donc on s'attend à ce que cette structure de modèle représente de manière satisfaisante la notion de type d'homotopie. Donc la définition, les preuves sont la définition de D2A n'est pas complexe. Alors donc je voudrais conclure donc ce cours. Alors donc j'espère avoir montré donc la richesse de l'étude des modèles de la théorie des types et en particulier donc des modèles du principe d'univalence. Donc là je pense de manière technique je pense que ça a tout à fait révolutionné donc l'étude le fait représenter de manière précise donc ce qu'est un modèle de la théorie des types avec univalence, donc a conduit les gens à vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'un modèle de la théorie des types. Et donc, comme je l'ai dit, donc, ce qui est remarquable et vraiment intéressant, c'est que la plupart des résultats que j'ai présentés ont été en fait vérifiés sur machine. Alors, comme je l'ai dit, donc de manière conceptuelle, donc le principe d'univalence, c'est une formulation. Du principe d'extensionnalité. Alors, c'est un principe qui doit être admissible. Donc, on s'attend que toute opération qu'on fait en théorie des types est extensionnelle. Donc, ça, c'est une propriété donc, de la théorie des types qui est très importante en informatique, dans les langages de programmation. C'est une propriété d'abstraction qui a été bien, donc, en particulier donc Reynolds, a vraiment insisté sur le fait que l'utilisation de la théorie des types permet de capturer cette notion d'abstraction qui est vraiment utile donc en théorie de langage de programmation. C'est une propriété de modularité. Mais en général, donc quand on a quelque chose qui est admissible, comme cette propriété d'extensionnalité, ce peut ne pas être une bonne idée d'exprimer de manière interne, d'internaliser cette notion-là. Donc un exemple de cette situation, c'est la thèse de Church. Donc la thèse de Church, c'est aussi une propriété admissible. Donc si j'exprime quelque chose en théorie des types, si je construis une fonction en théorie des types dans un contexte vide, un terme clos de type Unflechten, je m'attends à ce que cette fonction soit calculable, soit récursive. C'est une des motivations de la théorie des types. Donc ça, c'est une propriété admissible, mais donc là, c'est un exemple où il ne semble pas être une bonne idée d'ajouter la thèse de Church comme un axiome, comme une propriété interne. Donc en particulier, entre autres, donc si on ajoute ça, on nie certains principes qui sont formulés par Brouwer, principe de continuité, et ça fait que c'est un cadre qui n'est pas élégant. Donc là, on peut se demander pour l'extensionnalité et pour l'univalence, est-ce que c'est une bonne idée d'ajouter ça comme un axiome ? Alors, l'extensionnalité semble avoir un statut spécial. Donc, si on regarde ce qui se passe en mathématiques, donc ça, c'est des discussions de Russell, et c'est un principe qui est admissible, mais en fait, on veut le rajouter de manière interne. Et c'est ce qui s'est passé donc, en théorie des ensembles. En théorie des ensembles, le premier axiome de la théorie des ensembles, c'est l'axiome d'extensionnalité. Donc, la pratique mathématique semble tout à fait montrer que c'est tout à fait satisfaisant de rajouter ce principe comme un axiome, comme de manière interne. Alors, quelle est la situation pour l'univalence ? Donc là, c'est encore ouvert, je pense. Donc comme c'est la forme naturelle de l'extensionnalité pour la théorie des types, je pense que la situation est la même que pour l'extensionnalité ordinaire qui a été ajoutée à la théorie des ensembles. Alors, mais où ça devient un peu spécial, c'est que quand on l'ajoute de manière interne, ça change tout à fait le caractère de la théorie des types. Donc de la même manière, quand on ajoute la thèse de Church à un système formel, ça change tout à fait le caractère de ce système formel-là. Alors là, donc ça change le caractère, on a des nouveaux phénomènes, donc on peut définir les espaces d'Alembert-MacLane, on a une nouvelle formulation du principe du choix unique, on a une nouvelle situation pour décrire les faisceaux, une nouvelle notion de forcing et tout, qui ne sont pas des mathématiques usuelles. Alors, donc la question, est-ce utile pour la formalisation des mathématiques ? Alors, donc c'est trop tôt pour juger. Mais donc la situation qui est intéressante, c'est que ça peut être testé maintenant. Ça va être testé par formalisation. Donc ça c'est... je pense, donc même pour des notions de mathématiques ordinaires, comme notion d'anneau, et après notion de catégorie, ça permet de structurer les preuves de manière intéressante. Alors, donc c'est trop tôt pour juger, donc s'il faut rajouter l'univalence. Alors là, il y a aussi une situation intéressante, c'est qu'en fait, certains mathématiciens, donc l'univalence de rajouter de manière interne, alors certains mathématiciens, donc comme Sierzynski, pensent déjà qu'on doit aller plus loin, en fait. Donc ça ne suffit pas de rajouter l'univalence, mais il faut rajouter une univalence dirigée et avoir un système qui prend la notion, donc, au lieu de prendre cette notion dans le cadre univalent, on prend la notion groupoïde comme la notion fondamentale, donc tout type définit naturellement un groupoïde. D'après Sierzynski, il faut aller plus loin, il faut une théorie des types, donc où en fait la notion primitive, c'est la notion de catégorie. Donc ça, c'est des questions qui sont ouvertes et qui vont être donc discutées dans le colloque qui va y avoir le 2 juin. Donc Sierzynski va venir et présenter donc ses idées sur ce que doit être un système formel. Et il y aura donc d'autres présentations sur la formalisation des mathématiques qui permettront de discuter cette question-là. Et donc en conclusion, je voudrais donc terminer par le... on est exactement dans la situation que décrivait Bourbaki. Donc je ne sais pas quelle année ça c'était, mais donc il disait exactement, donc peut-être la théorie des ensembles, il se pourrait, donc on doit modifier le cadre de la théorie des ensembles pour rendre compte de théories plus récentes. Donc à l'époque c'était la théorie d'homologie dite axiomatique, et donc la phrase c'était, il faudrait alors, sinon changer complètement de langage, tout au moins élargir les règles de la syntaxe. Et c'est à l'avenir qu'il appartiendra d'en décider. Donc on a exactement cette situation-là, avec un apport nouveau, c'est que maintenant donc, on a la formalisation et donc, sur machine, et donc qui va permettre de tester ces idées, si on change les règles de syntaxe, est-ce que ça se passe bien ou pas pour décrire l'univers mathématique. Et je pourrais conclure là-dessus. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.